qui va justement d'ailleurs faire un chapitre de mon livre en préparation, alors il faudra qu'on en parle. Ok, alors que... de mon livre, oui. Question d'identité dans les chansons de soldats de l'armée britannique pendant la Grande Guerre. Alors je vous ai donné une série d'extraits des paroles. On ne va pas les regarder tous, mais seulement une partie, parce que, bon, là j'ai une version raccourcie à l'oral, et il y aura une version écrite plus longue que je vais proposer à la revue Imagère. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une chanson de soldat? Comment on définit une chanson de soldat? Il s'agit des chansons donc chantées collectivement par les soldats, généralement de composition anonyme, donc c'est pour les distinguer des top 50 de l'époque, du musical, c'est le musical à l'époque. Très souvent, ce sont des chansons courtes, qui sont écrites pour des airs connus, déjà, traditionnelles ou religieuses. Et comment on a... Donc ça veut dire que ces chansons, ça ne couvre pas la totalité des chansons chantées par le soldat, parce qu'ils vont aussi chanter des chansons de musical en collectivité. Mais donc les chansons qu'ils écrivent eux-mêmes, quelque part, c'est le supplément pour parler des choses qui ne sont pas traitées par les chansons de musical de l'époque. Il y en avait combien ? J'en ai trouvé 300, il y a quelques centaines, j'en ai trouvé 300 chansons de soldats, c'est-à-dire beaucoup moins que les chansons de musical dont j'ai trouvé 3000. Alors voilà, donc c'est pour vous donner une idée, c'est un corpus assez restreint, les chansons de soldats. Elles font partie d'une culture amateur, tout comme les centaines de journaux de tranchées qui étaient produits pendant la guerre. Les soldats, ils produisaient des journaux pour raconter leur vie entre eux. Voilà. Comment on a accès à ces chansons? En fait, il y a les extraits viennent de trois types d'ouvrages différents. Tout d'abord, des ouvrages des gens qui pensaient savoir ce que devraient chanter les soldats, je vous dirai lesquels. Deuxièmement, des recueils publiés à l'époque, 1914-1918, Thomas Tunes, More Thomas Tunes, etc. Et donc, qui prennent leur authenticité du fait qu'ils sont publiés par des soldats à l'époque, donc souvent des officiers, parce que accès aux maisons d'édition, etc. Et troisièmement, le plus courant, des recueils produits quelques années après, il y en a dans les années 30, dans les années 60 et dans les années 2000, à partir des souvenirs des anciens soldats. Maintenant, bien sûr, les chansons qu'on chante en groupe, que ce soit au football, à l'église ou dans l'armée, ça dit beaucoup de choses sur notre identité, sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et alors, ça me semble des documents particulièrement intéressants à étudier. Elles ont aussi un autre avantage en tant que document historique, c'est qu'elles n'ont pas subi une censure, ils n'ont pas, comme les chansons de musical, de passer par un consensus politique très lourd, parce que le manager du grand théâtre de variété à Londres ne peut pas se permettre de mettre sur scène des chansons qui vont offenser même 10% du public, parce que financièrement, il ne peut pas se permettre d'offenser des gens, tandis que bien sûr, les soldats à l'étranger ne sont pas ce problème. Dernièrement, elles sont portées par un groupe social relativement homogène, c'est-à-dire les soldats de rang. C'est relativement homogène, contrairement au musical qui, à cette époque, c'est un public de masse avec beaucoup de milieux sociaux différents. Voilà, il n'y a pas une ligne absolument stricte entre musical et chansons de soldats, parce que les chansons de soldats commencent à s'intégrer dans les spectacles musical vers la fin de la guerre, bien sûr des chansons sélectionnées, et aussi l'industrie du gramophone commence à faire enregistrer par des ténors célèbres des chansons de soldats. Alors, avant de passer aux chansons de soldats, nous allons regarder les chansons qu'une partie de l'élite aurait voulu que les soldats chantaient. Alors, essentiellement, la première page, ça vient de ces recueils recommandés pour les soldats, et je n'ai aucune trace dans les centaines de mémoires que j'ai lues, qu'ils ont été chantés même une fois par un seul soldat, hein, mais ils étaient recommandés. Alors c'est le lieutenant Enger qui publia Marching Songs for Soldiers Adapted to Well-Known Tunes en 1914, et vous en avez quelques extraits sur les sur la feuille. Le premier extrait donne l'explication officielle des raisons de la guerre et livre une représentation mélodramatique de l'ennemi à abattre. Le deuxième extrait montre que Enger, donc l'auteur, voulait que les soldats s'identifient comme des supporters loyaux de leurs généraux. Et c'est ainsi qu'il propose cette chanson, qui est une chanson à la gloire de Sir John Denton Pinkstone French, KP, GCB, OM, GCVO, KCMG, ADC, PC. Suivant l'habitude anglaise de mettre les honneurs qu'ils ont gagnés après le nom. Voilà, le premier commandant, donc... du corps expéditionnaire britannique, le chef de l'armée, si vous voulez. Et c'est comme ceci. Do you ken John French with his khaki suit, his belt and gaiters and stout brown boot, along with his guns and his horse and his foot on the road to Berlin in the morning? The Prussian Kaiser must be made to yield, the Prussian eagle must be made to feel, the force of the bullet and the good cold steel on the road to Berlin in the morning. Voilà, c'est ce qu'ils étaient censés chanter. Dernier extrait que je vais commenter, c'est le numéro 3, que j'aime particulièrement, que je n'ai pas l'air. Alors c'est « Here's to the health of the king and queen, ever at work for a living, morning and evening, and all that's between, cheerful and helping and giving. » Comme peut-être vous l'avez deviné, ces chansons n'avaient aucun succès. Je n'ai trouvé aucun exemple quand les... Mais Enger n'était pas le seul à proposer des chants pour les soldats. L'armée britannique n'a pas choisi la voie de l'armée américaine, qui a mis en place un programme massif de chants collectifs avec recrutement de maîtres de chants pour chaque compagnie de l'armée. Chants collectifs quotidiens obligatoires. C'était l'armée américaine de la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas ce qu'ont fait les Britanniques, mais il y avait par exemple la publication semi-officielle du New Army Songbook en 1915 et un autre livre, Tommy's Book of Marching Songs, qui sont peut-être mieux écrits que ceux que je viens de citer, mais qui sont dans le même genre. L'extrait numéro 5 exprime le désir de mourir en soldat. Yes, let me like a soldier fall upon some open plain, this breast expanding for the ball to blot out every stain. Bon, ça mérite de la clarté. Et ça rejoint une tradition de vieilles chansons de soldats dans le genre nous avons atteint la gloire à coups de sabre. C'est une célèbre citation. Alors, ça, je vais sauter. On va passer aux chansons que les soldats chantaient vraiment. Je dis ça sans trop de peur, parce que vraiment, il existe maintenant des centaines de mémoires, et les recueils de chansons de soldats, souvent, ils se basent sur énormément d'exemples des gens qui les ont chantées. En même temps, il faut faire attention, et donc l'avantage des chansons de soldats, c'est que ça nous rappelle la difficulté de trouver le sens premier des chansons, ou d'ailleurs de tout autre type de documents historiques. Et Robert Graves, dans son autobiographie, fait remarquer, et c'est très important, que les différents régiments avaient une ambiance tout à fait différente et des chansons tout à fait différentes. Dans certains régiments, on chantait beaucoup des chansons défaitistes que nous allons voir. Dans d'autres régiments, on chantait les chansons comique, mais pas les chansons défaitistes. Alors, il faut faire attention à généraliser, ce qui est un problème général quand on étudie la culture populaire. On a tendance à généraliser trop vite. Il faut aussi noter que l'armée britannique de la Première Guerre était de fait constituée de trois types de soldats très différents. Un, les soldats professionnels de l'avant-guerre. Deux, les hommes qui avaient répondu à la campagne massive de recrutement de 1914 et 1915. Trois, les hommes obligés de rejoindre l'armée après l'introduction de la conscription en 1916. Et il est très intéressant de voir que pendant l'ensemble de la guerre, la moitié des soldats qui ont combattu pour l'armée britannique étaient des conscrits. Comme quoi, parfois, je pense que l'idée de l'enthousiasme pour la guerre doit être relativisée, parce qu'après la campagne la plus massive imaginable, seulement la moitié sont allés rejoindre. Mais bon, ça peut se débattre. Première chose, donc, dans les chansons de soldats, c'est l'absence époustouflante du patriotisme. dans les chansons de soldats. Palma dit « Ce qui brille par son absence dans les chansons de soldats est le patriotisme dans le sens qu'il était compris et promu en Angleterre. » Et j'ai 6-7 autres citations d'historiens, vous me faites confiance, qui disent la même chose. Les soldats britanniques étaient étonnés de voir les Français chanter la Marseillaise. Il y en a un soldat qui disait « The French sang the Marseillaise while the British sang We want to go home. Okay. » Presque sans exception, donc absent. De la même façon, la haine pour l'allemand qu'essayait de provoquer Lloyd George et les dirigeants politiques prenait très peu parmi les soldats. Les dirigeants militaires avaient beaucoup de mal à empêcher la fraternisation entre les soldats anglais et allemands, malgré la propagande très active. L'exemple le plus extrême est évidemment les trêves de Noël 1914, où, de façon indépendante, dans des dizaines d'endroits différents, il y a eu fraternisation toute la journée entre les soldats britanniques et allemands. Beaucoup moins spectaculaires, mais beaucoup plus courants, furent des attitudes de vivre et laisser vivre dans les tranchées, où on ne vous attaque pas si vous ne nous attaquez pas. Vous n'avez pas du tabac, j'ai du whisky. Hein. On le lance, hein, c'était un peu ça. Comment on voit ça dans les chansons de soldats? Eh bien, tout d'abord, les chansons anti-allemands sont très rares. Et en général, on parle très peu des Allemands dans les chansons. Il y en a même une chanson, c'est le numéro 8, qui est plutôt sympathique envers les Allemands. C'est comme ceci. Keep your head down, Allemagne. Keep your head down, Allemagne. Last night in the pale moonlight I saw you, I saw you. You were mending broken wire when we opened rapid fire. If you want to see your father in the fatherland, keep your head down, Allemagne. Cependant, vous voyez là dans les sections 9 et 10, deux chansons très méchantes contre les Allemands. Et justement, là, je les mets en question parce que je ne sais pas si elles étaient chantées ou non. Elles ne sont pas tirées d'un des recueils de l'élite qui recommande aux soldats. Ils sont tirées d'un recueil de chansons de soldats publié à l'époque, en 1914. Alors, je ne sais pas s'ils ont pris ou non. C'était un officier qui l'a publié. Mais ce recueil contient beaucoup de chansons de type défaitiste. Alors, bon, ce qui donne foi de son authenticité, quelque part. Alors, ceux-là, qui sont assez méchants. Bon, le premier est seulement méchant pour le Kaiser. Le deuxième, pour tous les Allemands. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est que pour chaque chanson qui s'attaquait aux Allemands, il y en a des dizaines qui s'attaquaient aux supérieurs hiérarchiques anglais et qui souvent souhaitaient leur mort. Alors bon, ce n'est pas controversé. Sur un corpus de 56 chansons de soldats, qu'est-ce que nous avons un peu pour donner des chiffres? De la satire, des chansons comiques sur la guerre, 21 sur 56. Se moquer du système militaire, 7. Se moquer des officiers supérieurs, 8. Quand ce n'est pas espérer qu'ils meurent. Hein.
Les 56 en question, c'est lesquels?
C'est un corpus de 56 chansons de soldats.
Donc c'est les 56 que parmi... Parce qu'au départ, tu avais parlé de 300...
Ah oui, oui, non, mais j'ai...
Donc là, c'est
oui,
les 56 oui, que tu as étudié en détail.
Voilà, d'accord. Tout à fait, c'est ça, je crois. Oui, voilà, ça doit être ça. Sur la boisson, 4. Sur le paradis que va être la vie civile après la guerre, 2. Chanson patriotique, 1. Chanson anti-allemand, 0. Chanson sexuelle, 5. Je dois avouer que je ne vous en ai mis aucun, mais je peux vous dire que même aujourd'hui, c'est des jeunes hommes isolés pendant des années en train de mourir. On ne peut pas leur demander d'être d'une élégance spéciale dans la chanson. Voilà. Alors, avant de passer donc aux chansons sur les officiers supérieurs, je voulais faire un petit commentaire sur le patriotisme. Comme je dis, ils ne chantent pas le patriotisme, mais chanter les exploits glorieux des soldats de notre régiment, c'est tout à fait possible. Alors, quand on chante sur notre propre régiment, donc une identité plus localisée, là, il y a, je n'ai pas ici, mais là, il y a toute une série donc de chansons qui disent, voilà, les nôtres, c'était les mieux, les plus courageux, on a gagné, etc. Beaucoup de chansons qui s'attaquent aux supérieurs hiérarchiques. Il faut voir que, vous savez que le stéréotype de la vie dans les tranchées, c'est que les officiers étaient des brutes cruels qui maltraitaient le subalterne. Donc ça, c'est le stéréotype. La réalité, c'est beaucoup pire. Parce qu'en fait, il faut c'est du Oliver Twist. Hein. Mais c'est du Oliver Twist. C'est la cruauté... institutionnalisé, si vous répondez trop aux officiers hiérarchiques, on vous attache aux roues du canon pendant une journée pour que vous vous calmez. Il y a eu un cas de quelqu'un qui a donné un coup de pied à son supérieur hiérarchique et a été fusillé. C'est pas gentil. Ça reflète en fait une société très très hiérarchisée. C'est seulement 15 ans avant que dans le Lock Rise de Candleford, l'auteur décrit que quand l'élite locale passait, on saluait, on s'inclinait. C'est une société extrêmement hiérarchisée et les conditions qu'on voit dans les asiles des aliénés ou dans le workhouse, ça se traduit parfois même à l'extrême dans l'armée. Et ça c'est... Bien sûr, ça dépend qui était votre supérieur hiérarchique, mais disons que les supérieurs hiérarchiques cruels n'étaient pas rares. Et ceux qui n'étaient pas cruels, ils étaient dans une position où, pour faire sortir les gardes de la tranchée, la menace d'exécution sommaire était courante. L'exécution sommaire est rare, mais qui existe aussi. C'est une situation extrême. Les chansons de soldats donc, identifient le soldat de rang comme étant l'ennemi de ses supérieurs. Nous avons là le numéro 11. We've got a sergeant major who's never seen a gun. He's mentioned in dispatches for drinking private rum. And when he sees old Jerry, you should see the bugger run. Donc old Jerry, donc l'allemand. C'est le général Sir Cameron Dean Chute qui a un rôle particulier dans cette histoire parce qu'il y a une chanson de soldat très connue composé spécifiquement contre lui, lui souhaitant la mort. Bon, là, c'était le numéro 12. Et il y a, j'en ai mis un autre, mais il y a toute une série de chansons qui souhaitent la mort de le supérieur hiérarchique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que après la guerre, en 1920, il y a une chanson de musical qui dit « Je vais aller chercher le sergent qui était mon chef pendant la guerre et je vais l'assassiner ». Et c'était un tube. C'est un grand succès. C'est pas quelque chose qu'on peut minimiser comme voilà, il fallait bien qu'il se défoule dans une situation dangereuse. Une des plus connues des chansons de soldats, c'est Hanging on the Old Barbed Wire. Et c'est le numéro 14. Et c'est comme ceci. If you want to. Oh non, je vais pas réussir là. If you want to find the sergeant, I know where he is. If you want to find the sergeant, I know where he is. If you want to find the sergeant, I know where he is. He's lying on the canteen floor. I saw him lying on the canteen floor. I saw him lying on the canteen floor. Donc chaque strophe parle d'un corps particulier de l'armée, the brass hats, donc les grands chefs, les dirigeants supérieurs, où sont-ils? Ils boivent du Bordeaux au quartier général. Les politiciens, ils boivent du cognac dans la barre de la Chambre des communes. Et les pauvres petits soldats, ils sont où? If you want the old battalion, I know where they are. If you want the old battalion, I know where they are. If you want the old battalion, I know where they are. They're hanging on the old barbed wire. Yeah, hanging on the old barbed wire, donc accroché au barbelé, mort. On sait, ça a été assez commenté, celui-ci, c'est de hanging on the old barbed wire, c'est ils sont accrochés au bon vieux barbelé. Alors, il y a un côté familier de la mort qui est très, 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 très choquant, quelque part. Dans certains régiments, ils ont essayé, sans grand succès, à empêcher les soldats de chanter cette chanson-là. Plus courant quand même que les attaques contre les super-hiérarchiques sont des protestations plus générales contre les conditions de vie, contre la nourriture, l'hébergement, l'inefficacité et la bêtise du système militaire. Le numéro 15, par contre, je trouve que quelque part c'est mon préféré, très très simple, c'est « We're here because we're here. On peut le chanter très très longtemps. Et c'est très fort parce que vraiment, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. C'est vraiment une chanson très beau. D'autres exemples donc, sur le système militaire, j'en ai une chanson ici, le numéro 16, où il s'agit de Iron Ration. Alors, la Iron Ration, c'est, je sais pas, j'ai pas le vocabulaire français, mais c'est une ration de réserve. C'est de la nourriture de réserve que vous n'avez pas le droit de manger, parce que c'est si jamais vous êtes complètement isolé, ça va vous nourrir pendant 24 heures, un truc comme ça. Et souvent, les soldats le mangeaient parce qu'ils avaient faim. Et c'était une erreur, c'était un problème disciplinaire. On était sanctionnés si on avait mangé. Alors ici, la chanson qui est dans le style de Harry Champion, une vedette du music hall. Where's your Ryan, where's your Ryan, where's your Ryan Russian? It's not for use, that's no excuse, your Ryan Russian you must produce. It's only meant for ornament, you must be in the fashion. You'll get it hot if you ain't got your Ryan, I am Russian. Alors, j'ai pratiqué toute la soirée. Voilà, donc, après, bon, on peut, je vous en ai donné une autre, mais bon, ils se ressemblent un peu. Il y avait suffisamment de problèmes pour écrire des chansons, et puis ils avaient suffisamment de temps. Parce que la vie typique de la tranchée, c'est 3 jours de bataille affreux, et puis 2 mois d'ennui. De plomb. C'est un peu... Bien sûr, on voit beaucoup plus dans les films la bataille, mais l'ennui était monumental. Le dernier commentaire que je veux faire là-dessus, parce que j'ai presque fini, il ne s'agit pas de chansons réalistes. Là où les poètes de la Première Guerre, Siegfried Sassoon ou Wilfred Owen, tentent d'exprimer pour les civils les conditions affreuses de la mort qui entourait les soldats, et vraiment des chansons qui arrachent. Les chansons de soldats, c'est pas ça. Donc, ils ne parlent pas des cadavres qui pourrissent devant eux, tout ça. Ça, c'est pour les poètes. Parce que les soldats, ils ne vont pas s'amuser à chanter sur ça quand c'est devant les yeux. Alors, c'est un traitement des thèmes difficiles à vivre, qui les rend moins difficiles à vivre. Alors, il y a beaucoup de chansons assez ironiques sur la mort. Le 18, « The bells of hell go ting-a-ling-a-ling for you, but not for me. And the little devils, how they sing-a-ling-a-ling for you, but not for me. » Alors, vous allez crever ce soir, mais pas moi. Hein? C'est ça un peu le thème. Même chose pour le suivant, qui est basé sur un air de music hall. If the sergeant steals your rum, never mind. If the sergeant steals your rum, never mind. Though he's a bloody sot, just let him take the lot. If the sergeant steals your rum, well, never mind. On invente beaucoup d'autres strophes, et ça finit. If you get stuck on the wire, never mind. If you get stuck on the wire, never mind. Though the light's as broad as day, when you die, they stop your pay. If you get stuck on the wire, well, never mind. Et dernière sur la mort, c'est une chanson de pilote. What did you want to have a crash like that for? It's the sixth you've had today. It makes you sad, it makes me mad. It's lucky it was an Avro, not a brand new Spad. Or what did you want to have a crash like that for? You better clear the wreckage away. Celui-là, il illustre un des types de chansons qui disparaît. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les recueils nostalgiques collectés dans les années 30 ou 60 et les recueils publiés à l'époque par des soldats. Il y a 2 types de chansons qui disparaissent. Tout d'abord, les 3 ou 4 chansons anti-allemands disparaissent. Les nostalgiques, ils ne s'en rappellent plus. Est-ce que c'est parce qu'ils ne les ont pas chantées ou parce qu'ils préfèrent ne pas s'en rappeler? allez savoir. Et le deuxième type, beaucoup plus nombreux, qui disparaît, ce sont des chansons qui ont beaucoup de vocabulaire technique. Ce sont des chansons de pilotes, et vraiment, en fait, on ne comprend rien. Hein. C'est que du l'argot technique sur les... Et donc là, ils disparaissent dans les recueils des nostalgiques, parce qu'on ne peut pas vendre ça, personne ne va comprendre. Alors, moi, je vais arrêter avec la toute dernière, le 22, parce que là, ça fait déjà 23 minutes, parce que c'était mon titre. Et c'est donc tout simplement se moquer de l'armée, qu'on est tellement inefficace, et c'est vrai qu'il y avait des inefficacités époustouflantes. Alors, c'était quoi l'air? We are Fred Karno's army, the ragtime infantry. We cannot fight, we cannot shoot, no bloody use are we. But when we get to Berlin, the Kaiser, he will say, Hoch, hoch, my God, what a bloody fine lot, the ragtime infantry. Alors, Fred Karno, c'est un comique du musical de l'époque, extrêmement connu, beaucoup plus connu à l'époque que Charlie Chaplin. Et l'air, et ce n'est pas un accident, l'air, c'est What a Friend, non, l'air, c'est The Church is One Foundation, c'est un cantique. Et toute une série, il y a plusieurs des autres, celui d'avant aussi, plusieurs des autres chansons de soldats, ils ont des airs de cantique. Ce n'est pas un accident, il y a eu des auteurs qui les ont décrits comme des prières laïques. Sinon aussi, c'est de la moquerie de l'Église qui, eux, par contre, soutenaient mais à fond la guerre et écrivaient des cantiques du genre Notre-Dame des tranchées. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais je le mettrai dans la version écrite. Ma conclusion, ça tient en quatre phrases. Il s'agit de chansons connues et chantées par des centaines de milliers de soldats, voire des millions. Et ces chansons ne reflètent pas l'histoire de l'époque. Ce ne sont pas des illustrations de l'histoire de l'époque. Elles font partie de l'histoire de l'époque. Au même titre que les discours de Lloyd George ou les décisions des généraux, ce n'est pas des illustrations, c'est des documents historiques à part entière. Il est très difficile d'identifier le sens premier des chansons dans le contexte. Mais ça nous rappelle simplement, quand on est historien, qu'il est toujours difficile de trouver le sens premier de tout discours ou de texte. Alors bon, j'espère avoir démontré l'intérêt de ces petites chansons qui existaient que pour nous amuser, mais qui en fait nous permettent d'entrevoir d'autres éléments de l'identité et de la psychologie des soldats.
Merci beaucoup.